Bon dimanche à tous. On m'entend bien? Oui, vous allez bien? Oui, vous êtes réveillés?
Oui.
Vous êtes en forme?
Oui.
Et qui pose des questions, le gars en avant. Non, je suis content d'être avec vous. Je vous souhaite encore une fois, au nom de toute l'équipe pastorale, la bienvenue à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. On est vraiment content que vous soyez avec nous ce matin pour partager la parole de Dieu, partager un moment dans la communion fraternelle, pouvoir rencontrer d'autres croyants, discuter, puis sortir, comme ça a été mentionné, un peu de notre isolement à chacun de nos côtés. Ce matin, c'est le dimanche d'Action de grâce. Et quand on parle d'Action de grâce, on parle de remercier le Seigneur. Et je me suis comme amusé cette semaine à lire à peu près une vingtaine de différents sermons, de différentes approches sur qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est important quand on s'approche de Dieu pour le remercier? Et ça m'a fait réfléchir énormément et je suis arrivé avec « Sors de la boîte ». Quelle boîte? De quoi tu parles, Marco? Je vous invite à tourner dans le psaume 119, au verset 7. Psaume 119, au verset 7. Qui nous dit la chose suivante. « Je te louerai dans la droiture de mon cœur en apprenant les lois de ta justice. Je veux garder tes statuts, ne m'abandonne pas entièrement. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, ô Éternel. » Enseigne-moi tes statuts. De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences de ta bouche. Je me réjouis en suivant tes préceptes, comme si je possédais tous les trésors. On va prier, et ensuite on va plonger dans notre texte ce matin. Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Seigneur, merci de faire de nous un peuple qui peut s'approcher de toi pour t'adorer, pour te remercier, te donner toutes nos actions de grâce, faire de toi notre Dieu, bénir ton nom, exclamer à quel point tu es bon envers nous réjouir de ton salut, nous réjouir de tout ce que tu nous donnes. Seigneur, on veut ce matin s'approcher de toi en ayant pleine conscience que la reconnaissance, c'est le remède que tu nous donnes contre un cœur ingrat, un cœur oublieux. Et Seigneur, tu veux qu'on puisse utiliser ta parole pour abonder en actions de grâce. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Amen. Ah, j'ai trop de poche. Ce matin, on va parler ensemble de cultiver la reconnaissance. Et je vous ai mis le verset principal dans Psaume 119, simplement pour arriver, vous allez voir, on va faire un exercice ensemble. On va passer à travers la loi des 10 commandements ensemble pour rendre grâce à Dieu avec ça. Vous savez, aujourd'hui, on vit dans un monde qui essaye toujours de nous vendre leur bébelle. Et quelle est la meilleure façon de nous vendre leur bébelle que de nous faire croire qu'il nous manque quelque chose? Avez-vous remarqué? Le monde autour de nous cultive l'ingratitude ou l'égocentrisme de tout ce qu'on a besoin. Le monde autour de vous, les publicités vous disent qu'il vous manque quelque chose. Tout autour de vous, les affiches, si vous avez besoin d'un auto, vous cherchez la nouvelle nourriture, peu importe. Tout autour de nous est fait pour amener votre cerveau à se dire « il manque quelque chose ». Et tout autour de nous nous amène à penser que si j'avais cette chose-là encore, ben je serais mieux. Tout le monde me suit? Avez-vous remarqué ça ou il y a juste moi? Et moi, j'ai réalisé que ça fait une boîte. Et j'aimerais vous dire que la boîte, elle est différente pour chacun d'entre nous. Le meilleur pitch de vente, c'est vraiment que proposer aux gens quelque chose qui va répondre à un manque ou un mal. Et si mon produit ne répond pas à un manque ou un mal, qu'est-ce que je vais faire? Je vais en créer un. ou je vais essayer d'en créer un. Donc, depuis toujours, notre monde se concentre sur créer un sentiment de doute, de mal-être, de questionnement, et va nous pousser à essayer de le remplir par plein de façons différentes. Et souvent, dans notre monde, nous, Nord-Américains, riches, on va y aller par la consommation, que ce soit de n'importe quoi. Mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout autour de nous essaie de nous dire, de nous faire croire qu'on est malheureux. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je n'ai pas la télévision chez moi. Je n'ai pas le câble. Mais quand je passe un petit peu de temps ailleurs et que je peux voir les annonces et tout, je suis vraiment, on tombe dans un mode, je ne sais pas si vous voyez ce que le mot m'échappe, là, un mode de... Oui, mais pas juste consommation. C'est quoi donc? Ah, pas content. C'est vraiment, on parlait comme si je parlais à des enfants. Un mode pas content. Il manque quelque chose. Insatisfait. Hey, vous êtes bon en français. On est insatisfait. Et j'ai remarqué dans la parole de Dieu qu'il y a plusieurs versets qui nous amènent à réaliser que cette insatisfaction générale ne vient pas de Dieu. Et qu'une des... Une des choses que Dieu nous donne pour contrer cette insatisfaction-là, qui est généralisée dans nos vies, si on n'a pas le Seigneur ou si on essaye de vivre par nous-mêmes, souvent cette insatisfaction-là, elle est généralisée et on va d'échec en échec, de déception en déception. Mais à chaque déception, il y a ce qu'on appelle, excusez l'anglicisme, un petit kick de dopamine qui fait que pendant que j'essaye quelque chose de nouveau, ben là, je vais être bien ou j'oublie que je ne suis pas bien. Vous me suivez? Et puis, notre cerveau est fait pour apprécier ces petits, excusez encore l'anglicisme, kicks de dopamine-là pour nous amener à avancer. On a besoin de ces petites choses-là. Et un point qui est très central, c'est que la parole de Dieu nous donne des valeurs qui sont importantes, comme la parole de Dieu, la famille, être en paix avec tous les hommes, aider notre prochain. Et si vous êtes conscient que on vit, et ce matin, j'aimerais qu'on puisse remercier le Seigneur pour ça, on vit dans un monde, même si nos gouvernements, des fois, ne font pas notre affaire tout le temps, nos lois et tout ce qu'on fait est régi selon une pensée judéo-chrétienne. Et on peut dire merci à Dieu pour ça, parce que à peu près tout ce qu'on vit dans nos lois qui protège le faible, protège l'opprimé, qui prend soin des gens, qui demande de prendre soin des gens, de vraiment ne pas abuser de ces choses, des gens plus faibles et tout, eh bien, c'est des valeurs chrétiennes. Si on va dans un monde où il n'y a pas ces valeurs-là, on est dans le trouble. Et malheureusement, ces valeurs-là perdent de plus en plus de leur profondeur, de leur valeur. Et on arrive dans une mentalité aujourd'hui où encore plus de consommation va être présente parce que vous allez remarquer peut-être, mais de plus en plus, on est isolé. Chacun de notre côté. Depuis la COVID, c'est encore pire, on dirait. Je ne sais pas si vous avez remarqué que depuis la COVID, ou peut-être que vous êtes plus au courant que moi encore, mais j'ai lu que la vente d'antidépresseurs depuis la COVID avait quadruplé. Et qu'est-ce qui a quadruplé aussi depuis la COVID? Oui, le suicide, mais je ne vois pas intense de même. Là. Le télétravail. Oh! Et donc, on est isolé, chacun de notre bord, 3-4 jours semaine, chez nous, sans communion fraternelle, sans voir d'autres gens. Et là, on travaille et on a la même paye, des fois plus, parce qu'on peut faire de l'overtime chez nous. Je ne sais pas comment ça marche. Mais et on est tous isolés. Et on est tous capables de vivre. Et il nous manque tout le temps quelque chose. Mais je suis chez moi. Et qu'est-ce qui a popé comme, excusez encore l'anglicisme, mais qu'est-ce qui a popé partout? D'autres nouvelles applications qui vous permettent de rester tout seul chez vous et d'avoir absolument tout ce que vous voulez. Un clic et votre bouffe arrive. Un clic et vous avez le nouveau film que vous voulez. Un clic. Et là, vous n'avez plus besoin de voir personne
la grosse paix. Mais on est tous malheureux. Et là, on tombe dans un mode d'ingratitude où là, il manque quelque chose. Et si je ne trouve pas cette nouvelle chose-là par un nouveau clic, eh bien, on ne sera pas content. Et la parole de Dieu nous enseigne à être reconnaissant en toutes choses. Et là, la raison pour laquelle je vous amène dans cette espèce de réalisation-là, c'est qu'on est tous dans cette boîte-là. Qu'on le veuille ou non, on a tous, d'une façon ou d'une autre, une boîte qu'on a faite dans notre vie. Et on n'est pas nécessairement tous conscients de ça. Et depuis que le monde est monde, j'aimerais vous faire réaliser une chose. À la chute d'Adam et Ève, Satan a dit quelque chose, il a mis quelque chose en doute. Qu'est-ce que Satan a mis en doute? La parole de Dieu. Dieu a-t-il vraiment dit ça? Et là, la raison peut nous en échapper, mais Ève a quand même donné une réponse, mais une réponse questionnable, qu'on peut se questionner. Une réponse questionnable qu'on peut se questionner. Je suis bon en français. Mais elle a donné une réponse à Satan qui extrapole, qui en donne plus. Et Satan a créé une certaine insatisfaction. Vous serez comme Dieu. Dieu garde quelque chose qu'il pourrait vous donner. Le voyez-vous? Et depuis la chute, Genèse 3, combien de temps après la création, je ne sais pas, mais depuis que le monde est monde, nous sommes insatisfaits. Constamment, on cherche, on questionne et on avance. Et quand on arrive dans un endroit comme Psaume, qui nous dit « Je te louerai en apprenant les lois de ta justice. » Et là, je me suis questionné et j'aimerais vous donner un outil qui, depuis que je l'ai appliqué à ma vie, a changé ma vie de prière. Et c'est simplement, dans votre culte personnel, quand vous êtes avec le Seigneur, quand vous cherchez sa parole, cultivez la reconnaissance. Ce qui veut dire prendre, peu importe le verset que vous êtes en train de lire, vous le prenez et vous l'appliquez. Et vous regardez votre vie, on observe qu'est-ce que la parole de Dieu m'enseigne, et je vais regarder ma vie, l'observer profondément. Et vous savez ce qui arrive la plupart du temps qu'on fait ça? Un, on va soit trouver du péché, et là on peut demander pardon au Seigneur, et après avoir demandé pardon au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On peut être reconnaissant, on peut tomber en action de grâce. Ou si on ne trouve pas de péché, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir quelque chose que je peux remercier Dieu pour. Je vais pouvoir remercier Dieu sur plein de choses. Et ce qui m'a vraiment touché dans les deux dernières semaines où je réfléchissais à ça, on va le faire ensemble, j'ai passé au travers des 10 commandements. Et j'ai pu remercier le Seigneur pour tellement de choses. Parce que je ne voulais pas ce matin juste vous apporter... Je vous dis, j'ai lu à peu près 25 sermons différents, 25 approches, des livres. Et vous savez, on peut remercier le Seigneur pour tellement de choses. On peut remercier le Seigneur pour toute sa grâce dans nos vies. On peut remercier le Seigneur pour tous les biens matériels qu'on a. On peut remercier le Seigneur pour tous les amis qu'on connaît, les chrétiens, l'Église. Mais parfois, la meilleure chose et l'outil que j'aimerais vous donner ce matin, c'est un outil en toute humilité, qui va vous amener à être capable d'ancrer votre reconnaissance, je l'espère, dans la parole de Dieu profondément. Que quand vous lisez un verset, ce n'est pas juste la parole de Dieu, c'est la parole de votre Père céleste, de votre époux qui vous aime et qui veut votre bien, et qui veut déraciner des choses, des mentalités, et des fois une certaine lâcheté qu'on a dans notre vie chrétienne. On est tous un peu, moi le premier, lâche que je vais lire la Bible et puis des fois, au lieu de me l'approprier personnellement, je vais lire un deuxième chapitre pour ne pas me sentir trop coupable, mais je ne me l'approprierai pas. Au lieu de ça, je vais essayer avec vous ce matin qu'on puisse se l'approprier. Et là, on n'a pas lu le psaume 119 au complet, mais oh, combien de fois David dit à Dieu, « J'aime ta loi. Ta loi change mon cœur. Ta loi m'instruit vers les bonnes choses. Je me délecte de ta loi. » Et puis je disais, ce matin, si je prends le temps de lire Lévitique au complet, je suis sûr qu'on va tous se délecter ensemble. Mais ancrer ma reconnaissance dans la parole de Dieu. Et j'ai décidé de prendre la portion de la loi qui est la plus connue, qui est celle des 10 commandements. Et qu'on puisse ensemble apprendre à prier par la parole. Et je vous invite à tourner dans Exode 20. Exode 20, pour ceux qui aiment suivre dans leur Bible ou vos téléphones. Dans Exode 20, on a les 10 commandements. Exode 20, 1 à 17, je vais simplement vous lire. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Et ensuite, il commence. Et ce matin, on va faire un petit exercice ensemble, mais on va utiliser la loi de Dieu, utiliser les 10 commandements pour rendre gloire à Dieu et le remercier. Mais là, je vais faire quelque chose. J'aimerais vous aider à... Peut-être que vous avez déjà lu les 10 commandements et vous êtes conscient de ça, mais j'aimerais le dire quand même. Les 10 commandements sont bâtis que le premier commandement est le plus important. Et de lui découlent toutes les autres. Le premier, du premier découle le deuxième, du deuxième découle le troisième, et ainsi de suite, par ordre d'importance. Okay? Et si vous êtes capable d'obéir au premier, vous allez par défaut obéir aux autres. Tout le monde me suit? Et l'objectif d'arriver à respecter le premier commandement, c'est de passer par les 10 autres et de regarder notre vie personnelle. Et regarder notre vie, est-ce que je suis capable d'obéir au 10e? Si vous êtes capable, good job, est-ce que j'obéis au 9e, 8, 7? Et c'est ce qu'on va faire. On va les faire à l'envers. Êtes-vous prêts? Et ce matin, on va regarder ensemble, on va les passer à l'envers. Et à travers chacun des commandements, j'aimerais vous amener à avoir de la reconnaissance envers Dieu. Sortir de la boîte, on va s'ancrer dans les 10 commandements et on va essayer d'arrêter d'être ingrat. On va essayer d'arrêter d'être chialeux, d'être québécois, de respecter nos racines personnelles de chiolage exceptionnel et de s'ancrer vraiment dans la parole de Dieu pour abonder en actions de grâce. Donc, si vous suivez avec moi, le 10e commandement au verset 17, « Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. » Comprenez? Comment est-ce qu'on peut remercier Dieu avec ce commandement-là? Comment nous défaire de la convoitise? Avez-vous déjà pris le temps de vous arrêter et d'énumérer tout ce que vous possédez? Moi non plus. Mais, bien souvent, on attribue toutes ces possessions-là à notre succès, notre argent, notre travail. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu, Dieu est celui qui nous donne et nous permet d'avoir toutes ces choses-là. Et donc, quand on est dans cette lutte-là, parfois avec nos biens matériels, de convoitise, penser que j'ai besoin d'autre chose, que j'ai besoin de plus, que... Et là, je regarde le pick-up à mon ami, puis là, je suis comme, ah, j'aimerais tellement ça avoir ça, puis là, je deviens maussade. Quand je commence à regarder la maison des autres, quand je commence à regarder, et puis là, je regarde, qu'est-ce qu'on dit, l'herbe est toujours plus... est toujours plus verte chez le voisin. Oui. Et on est, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec des moyens au-dessus de la moyenne mondiale? Quand je suis pas content, qu'est-ce que je fais? Ben oui, je chiale, là. Ça, c'est normal. Mais aussi, je vais tomber dans l'ingratitude et je vais aller me chercher un nouveau jouet, une nouvelle bébelle, une nouvelle chose que peut-être j'ai pas besoin. Et je tombe dans la convoitise. Comment faire? Prenez le temps de remercier Dieu pour tout ce que vous avez. Prenez le temps de dire merci à Dieu pour votre char. Voiture, pardon. Pour votre voiture. Même si des fois, elle n'est pas plus belle que celle du voisin. Prenez le temps de remercier Dieu pour votre maison, votre appartement, en sachant qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Prenez le temps de remercier Dieu à chaque fois qu'il y a un dégât d'eau chez vous, que vous pouvez avoir un dégât d'eau. Dur à accepter, hein, mais s'il n'y a pas de maison, il n'y a pas de dégât d'eau. Et vous savez, quand on prend au sérieux une parole comme Romains 8, 28, qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon ses desseins, on va voir que la reconnaissance à Dieu vient par elle-même, ça vient tout seul. Et quand on essaye de ne pas convoiter, la meilleure façon de ne pas convoiter, c'est de remercier Dieu pour tout. Tout ce qu'on a, tout ce qu'on n'a pas. Vous savez, je m'en venais l'autre fois avec mes enfants, puis mes enfants, on a croisé une belle Lamborghini. Ça n'arrive pas souvent. Le gars était malade. Il se promenait en Lamborghini à Trois-Rivières avec les nids de poule. J'ai pas trop compris. Et puis là, mon fils, il regarde l'auto et il dit « Ah, papa, j'aimerais tellement ça l'avoir. » Et puis moi, dans mon humour, je l'ai regardé, j'ai dit « Merci Seigneur, j'ai pas les paiements. » On peut dire merci à Dieu pour toute chose. Et puis on peut vivre une vie de reconnaissance. J'étais là « Hey Seigneur, merci, on a vu une Lambo. » Ça n'arrive pas souvent. Là, mon fils, il dit « Ah ouais, t'as-tu déjà vu ça? » Je dis « Ben, je suis rendu à 34 ans, puis c'est peut-être ma deuxième que je vois en personne. » Ah ouais, avec lui, il était content. Mais vous savez, combattre la convoitise des yeux du cœur, et puis là, il y a une liste, là. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, la femme de ton prochain. Convoiter, ça veut dire quoi? Être insatisfait de ce que j'ai et vouloir ce que l'autre a. Être insatisfait. Un cœur insatisfait, c'est un cœur ingrat. Mais un cœur qui est insatisfait et qui s'oblige à dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a, est-ce qu'il peut rester ingrat longtemps? C'est difficile. Quand tu prends le temps de commencer à dire merci à Dieu pour tout, un nouveau chaudron, notre poêle a brisé, moi puis ma femme, notre poêle a brisé, notre four, et puis là, on était un peu découragés, il fallait payer. Puis depuis que j'ai le nouveau four, moi, je suis aux anges. Je l'apprécie. J'aime pas les paiements, mais je l'apprécie. J'étais pas content que le four brise, mais j'apprécie mon nouveau four. Et il y a plein de choses sur lesquelles on peut dire merci à Dieu qui va nous permettre de sortir de la boîte de négativité, de sortir de la boîte de comparaison et qu'on va être capable de remercier Dieu. Amen. Ça, c'est un vrai, vous pouvez cette semaine. Le deuxième, neuvième, qui nous dit simplement, tu ne porteras point de faux témoignages à ton prochain. Avez-vous déjà pris le temps de remercier Dieu pour la vérité? Avez-vous déjà pris le temps de remercier Dieu du fait que vous pouvez vivre dans la vérité? Celle de la parole de Dieu disponible pour tous les croyants. Ça peut nous permettre d'abandonner la peur, le doute et d'aller nous réfugier parfaitement en Christ, en sachant que ses promesses sont vraies. Quand Dieu dit « Je ne vous abandonnerai pas », quand Jésus dit dans Matthieu 28 « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde ». Et sachez que peu importe comment vous décidez de vivre votre vie en relation avec le mensonge, vous allez toujours finir par payer. Et vous êtes toujours mieux de vivre dans la vérité. L'apôtre Pierre nous dit « Vaut mieux être persécuté pour avoir fait une bonne chose » que pour une mauvaise. Êtes-vous capable de dire merci à Dieu du fait que la vérité nous affranchira dans Jean 8, 30? Jésus dit, on va tourner dans Jean 8, 30, parce que le petit stress fait que je ne me souviens plus ce que je voulais dire. On est bon, hein? OK. Jean 8, 30. Et 31. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment des disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » C'est par la vérité de la parole de Dieu qu'on peut être affranchi. Et si nous vivons dans la vérité, sachez que vous allez taper ses nerfs des gens autour de vous. Mm-hmm. Au travail, si vous faites une erreur et vous le dites, Oui, sur le coup, vous allez peut-être vous faire taper ses doigts, mais à long terme, les gens vont vous faire confiance. Si vous vivez dans le mensonge, c'est l'heure de se repentir. Si vous voyez dans votre vie des moments, des endroits où vous dites, je suis sur la ligne, repentons-nous. Et une fois qu'on s'est repenti, on peut dire merci à Dieu pour vivre dans la vérité et on va être capable, croyez-le ou non, de dire merci à Dieu pour les conséquences de nos mensonges. Croyez-vous ça? Mais la parole de Dieu nous enseigne que vivre dans la vérité, ce n'est pas facile, c'est malheureusement obligatoire. Et là, je dis malheureusement parce que ce n'est pas facile. Hein? C'est très difficile. Mais on peut dire merci à Dieu pour la vérité. Et vous savez, on apprend tous à vivre dans la vérité. On est tous, en termes normal, des enfants du mensonge. Et Dieu nous permet, pouvons-nous rendre grâce à Dieu pour ça? Dieu nous permet d'apprendre à vivre dans la vérité. Amen. Tu ne voleras pas dans le 7e commandement. Je vais retourner. Exode 20, pour ceux qui, comme moi, ont changé de page. Tu ne déroberas point ou tu ne voleras pas. Avez-vous déjà pris le temps de réaliser que voler est une action qui est basée sur les deux derniers commandements? La convoitise enflamme ce qu'on veut, nous fait devenir ingrats, incapables de dire merci à Dieu. Et quelqu'un qui vole et quelqu'un qui vit dans le mensonge, qui accepte des fraudes dans sa vie, qui accepte des choses qui sont contre Dieu. Et cultiver une attitude soumise à Dieu et une confiance quand c'est difficile nous aide à être solides dans la foi. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on doit se mettre en question et sur des points souvent financiers, sur des points de biens matériels, quand on ne combat pas la convoitise par l'action de grâce, quand on ne combat pas le mensonge par la vérité, eh bien, on peut arriver à voler. Et on peut arriver à voler, comprenez-moi, on peut arriver à voler de plein de façons différentes. Que ce soit sur nos déclarations d'impôts, que ce soit sur faire un petit peu d'argent sur le side, que ce soit de mal utiliser la propriété des autres, peu importe. Avez-vous pris le temps, dans votre vie récemment, de remercier Dieu pour le fait que vous n'avez pas à voler votre nourriture? Avez-vous pris le temps récemment de dire merci à Dieu du fait que vous n'avez pas besoin de voler du gaz? Ça s'en vient, mais vous n'êtes pas obligé. Vous savez, il y a des chrétiens dans le monde qui manquent de tout, qui sont laissés à eux-mêmes, abandonnés par eux-mêmes, et qui refusent de tomber dans le vol, qui refusent de vivre dans le mensonge, qui refusent de nier la vérité pour survivre, qui refusent toutes ces choses-là. Ils sont ancrés dans la parole de Dieu. Cultiver une attitude de soumission à Dieu, du fait que si je n'ai pas la chose que peut-être mon cœur désire, ben c'est peut-être que je n'en ai pas besoin. Et remercier Dieu pour toutes ces choses-là, cultiver la reconnaissance du fait que je ne vivrai pas dans le vol, dans le mensonge, que je ne vivrai pas dans la convoitise, et qu'à la place, je vais remercier Dieu. Vous savez, cette semaine, j'ai été au médecin avec mes enfants. Et puis, en revenant de chez le médecin, on est arrêté manger dans leur restaurant préféré. On est arrêté au McDonald's. Et puis, je me suis dit, bon, merci Seigneur, je ne travaille pas au McDo, je ne vole pas les gens. Parce que je trouvais que c'était vraiment trop cher et tout. Puis là, je me disais, voyons, qu'est-ce qui se passe? Et là, j'ai pu remercier le Seigneur au lieu de dire, ah, c'est trop cher, non, non, non. Mes enfants voulaient ça, étaient contents. J'ai pu dire à Dieu, merci Seigneur, du fait que malgré tout ce qu'on peut vivre, je n'ai pas besoin de voler ma nourriture. Merci Seigneur du fait que je peux venir avec mes enfants ici, même si on est tellement dans l'abondance. On peut choisir, on peut vivre dans l'action de grâce. Et puis là, je les ai encouragés à dire, êtes-vous contents? Là, ils m'ont dit oui, puis non, puis je ne sais pas trop. Mais on essaie de cultiver ça, hein? C'est de dire merci à Dieu pour tout, et surtout le fait que, bon, on est assez en moyen pour pas avoir, même pas, ça ne vient jamais dans ma tête de voler quelque chose. Vous comprenez? Merci Seigneur pour ça. Tu ne commettras pas d'adultère. Encore une fois, quelque chose qui est bâti sur les autres commandements qui viennent après. C'est pour ça qu'on les prend à l'envers. Tu ne commettras pas d'adultère. Pour tous ceux et celles qui sont mariés ici, avez-vous déjà remercié Dieu du fait que même quand vous vous chicanez avec votre conjoint-conjointe, elle n'ira pas voir ailleurs? Il ne s'en ira pas? Avez-vous déjà remercié Dieu pour ça? Êtes-vous conscient de tout ce qui est véhiculé dans les médias sociaux? Que si tu n'es pas content de ton conjoint-conjointe, ben va en chercher un autre. Que tu as le droit à ton petit plaisir personnel. Et donc, si tu n'es pas content, puis si tu es frustré sexuellement, ben va voir ailleurs. C'est ce qui est véhiculé partout. Et c'est ce qui est mis, qui est tourné en ridicule. Je ne regarde plus la télé parce que dans 9 shows sur 10, c'est ça. L'intrigue tellement omnibulante, humaine, de dire, lui, il a trompé avec lui, puis là, lui, avec lui, puis là, oh, là ça, va-tu se faire pogner, va-tu pas se faire pogner, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous pris le temps de remercier Dieu pour ça? Parce que si vous ne vivez pas dans l'action de grâce envers Dieu, à cause de ça, peut-être que vous êtes trop influencé par le monde, peut-être que vous êtes dans la boîte. Peut-être que vous avez déjà vécu quelqu'un qui vous fait ça. Peut-être que vous l'avez déjà fait. Et on vit dans une culpabilité extrême. Ça brise des vies. Remercions Dieu pour cette fidélité qui est là, qui est bâtie sur les autres. Et même, je parle encore une fois à toutes les couples mariés, c'est quand la dernière fois que vous avez remercié Dieu pour votre sexualité? C'est quand, la dernière fois, que vous êtes arrêté et vous avez pu dire à Dieu merci parce que tu nous as donné la sexualité et je peux la vivre avec mon conjoint-conjointe. C'est quand la dernière fois que vous avez fait ça? Et là, pour tous les petits frustrés sexuels de la vie, ça va vous changer les idées. Parce qu'il y en a! Tous ceux et celles qui luttent avec la pornographie, toutes les femmes qui se nourrissent de livres à l'eau de rose, de romances, tous ceux et celles qui sont accros aux téléromans, vous pensez que je ris, mais moi, je ne ris pas. Je suis très sérieux. C'est votre couple, dans votre famille, votre sexualité, elle est pure aux yeux de Dieu. Elle est bonne aux yeux de Dieu. Sans culpabilité, vous pouvez la vivre. Et là, on est appelé à remercier Dieu pour ça. À travers les 10 commandements, on passe au travers. Par l'effort de remercier Dieu individuellement ou en couple, vous allez briser des fausses idées qui peuvent être arrivées dans votre tête parce qu'on vit tous dans la boîte. Il faut sortir de la boîte, dire merci à Dieu constamment pour tout ce qu'on peut avoir. Et pour tous ceux et celles qui sont hors mariage, demandez à Dieu la force. Remerciez Dieu du fait que dans sa sagesse, il dit qu'il vous est préférable de ne pas vous perdre dans vos pensées. Demandez à Dieu la force. Mais ne vous laissez pas distraire, les messieurs, ne vous laissez pas distraire par vos yeux. Pensez pas avec, vous savez le reste de la phrase. Et je vous le dis, Jésus est sérieux. Il dit, il est préférable à l'homme de s'arracher un œil plutôt que de tomber dans le péché. Il est préférable, mesdames, messieurs, de jeter votre ordinateur aux poubelles et de vous désabonner de tout que de tomber. Il est préférable de jeter votre cellulaire à la poubelle que de tomber. Est-ce que je suis extrême? Oui. Est-ce que c'est vrai? Je vous laisse en juger. Il est préférable que vous n'ayez pas ces choses-là. Et là, on a bâti sur la convoitise, le mensonge, le vol. Et là, on arrive à l'adultère. Il est préférable pour vous, pour moi, de jeter, d'être extrême un peu, afin de retourner dans la force qui est la parole de Dieu, dans la force qui est la vérité, qui est le remerciement, les actions de grâce. Et on continue. Tu ne tueras pas, c'est celui que j'entends le plus. Quand on parle aux gens de la parole de Dieu et qu'on leur dit qu'ils sont pécheurs, ils nous répondent souvent, ben, au moins je n'ai pas tué personne. Moi je le vis, ça m'arrive. Là. Quand je parle du Seigneur aux gens, des fois, ils disent, ben, au moins je n'ai pas tué personne. Oui, mais qu'est-ce que Jésus a à dire là-dessus? Que celui qui se met en colère contre son frère, qui le traite de raca, mérite la géhenne. Qui ne s'est jamais mis en colère? Moi, je ne lèverai pas la main. Avez-vous pris le temps de remercier Dieu pour la tempérance, la maîtrise de soi, qui est un fruit de l'esprit que Dieu vous donne et que Dieu vous permet de mettre en œuvre jour après jour? Moi, je peux dire merci au Seigneur parce qu'il est gracieux dans sa tempérance. La tempérance, c'est le fruit d'un changement profond de cœur et l'acceptation de notre faiblesse à aimer les autres. Et bien souvent, la source de colère vient d'un certain égocentrisme. Ce sentiment que je vis une injustice et que là, je mérite et j'ai le droit de m'affirmer dans ma personne. Et quand on accepte de dire à Dieu, Seigneur, je ne suis pas capable, et moi je le dis souvent, je ne suis pas capable de vivre ma colère sans péché, apprends-moi. Quelle erreur. Tout arrive pour me mettre en colère ces temps-ci là. Mais Dieu nous donne la grâce. Et là, je peux remercier Dieu du fait que toute chose concourt au bien. Donc, arrête, Marco, de pogner les nerfs. Rends grâce à Dieu pour ce qui t'arrive. Tu ne vis pas une injustice plus grande que ce que Jésus a vécu. Ne te mets pas en colère pour rien. Rends-lui gloire. Et change, sors de la boîte. Tout le monde autour de moi chiale. Et tout le monde autour de moi est insatisfait. Tout le monde est ingrat. Tout le monde. Et là, je dis tout le monde en faisant une hyperbole. Mais on vit constamment dans cette mentalité-là que j'ai besoin de ne pas vivre d'injustice, que j'ai besoin de ne pas vivre d'insatisfaction. Et là, j'arrive à me mettre en colère et je justifie ma colère. Et dans ma tête, dans mon cœur, oh combien tout le monde mange une volée, tout le monde se fait taper, tout le monde. Oh. Dieu est gracieux. Avez-vous pris le temps récemment de remercier Dieu pour la tempérance? Avez-vous pris le temps de remercier Dieu du fait qu'il est gracieux quand on manque notre coup? Avez-vous pris le temps de remercier Dieu de son amour? Et là, on va tomber loin de la colère. Amen? C'est pas trop rough? Parfait. On continue. Honore tes parents. Avez-vous récemment pris le temps de remercier Dieu pour vos parents? Et là, que vos parents soient bons ou mauvais. Moi, je peux remercier Dieu. Je suis grandi dans une famille chrétienne qui m'a amené à l'Église et qui, malgré tout ce que je pouvais faire comme niaiserie, m'ont toujours aimé et ils m'ont élevé. Et je peux dire merci à Dieu même qu'ils m'ont élevé dans un temps où me discipliner, c'était encore accepté. Parce que des fois, je regarde les pauvres enseignants aujourd'hui et je me souviens comment j'étais et je me dis, ouf, ça serait pas beau. Je remercie Dieu tellement souvent pour ça. Et on peut remercier Dieu aussi qu'il est notre Père céleste. Ça a été dit ce matin. Prendre le temps, si vous avez vécu des choses difficiles avec vos parents, que ça, vous êtes en chicane, que peut-être que vous vivez vous avez vécu certains des péchés de vos parents. Dieu est plus grand que ça. Dieu est un Père qui vous aime, même quand les humains autour de vous vous font mal. Merci Seigneur pour nos parents. Merci Seigneur pour nos grands-parents. Merci Seigneur pour nos enfants, nos petits-enfants, ceux qui en ont. Hein? Merci Seigneur pour la famille, merci pour les valeurs que tu nous donnes dans la parole de Dieu. C'est une richesse tellement profonde d'avoir des parents. Et ceux et celles qui partent parfois, qui quittent leur pays puis qui viennent, souvent on s'ennuie de nos parents. On trouve ça difficile. C'est souvent une bouée, c'est souvent un ancre, c'est souvent là qu'on va quand on file pas. Hein, les gars, on va chialer à maman ou à papa. Puis là, bon, ils nous font un petit repas parfois, puis ça fait du bien. Et là, on peut remercier Dieu, comme ça a été dit ce matin, que nous sommes greffés à la famille de Dieu. On est adoptés dans sa famille. On est purifiés de nos péchés, semblables à Christ, notre grand frère céleste. On peut remercier Dieu pour ça. À quel point il est bon. À quel point il est un bon père. À quel point on a probablement été tous, d'une certaine façon, bénis. Et qu'à travers tout ce qu'on a connu, on peut être ici ce matin, en ayant un Père céleste qui nous aime. On peut tomber dans la reconnaissance pour ça. Le sabbat. Je vais vous donner un point de vue très général, parce qu'il y a plusieurs façons d'approcher le sabbat différentes. Il y a des gens qui sont très légalistes, il y a des gens qui sont très, très extrêmes. Mais savez-vous que ça a été calculé, il y a un historien récemment qui a calculé que les esclaves, dans le Moyen Âge, travaillait en moyenne 160 jours par année. J'aimerais vous dire que le Nord-Américain moyen en travaille 240. Donc, probablement, vous travaillez plus qu'un esclave du Moyen Âge. Êtes-vous conscient de ça? Moi, quand j'ai lu la statistique, j'ai dit, « Ah bon? » Et savez-vous, la meilleure façon de garder quelqu'un esclave, c'est qu'il y aille par lui-même, de sa propre volonté. Êtes-vous conscient? Et là, vous me voyez venir, je le sais. Avez-vous déjà pris le temps de remercier Dieu pour les congés? Moi, oui, souvent, quand j'étais jeune, là. Wouhou! Merci Seigneur pour les 2 semaines à Noël. Merci Seigneur parce que je n'ai pas d'école vendredi. J'abondais en actions de grâce, mais réalisez-vous, et moi, c'est quelque chose que je le répète quand même souvent, réalisez-vous que Dieu a envoyé son peuple en exil pendant 70 ans parce que son peuple ne se reposait pas. Il refusait les années de jubilé, il refusait de respecter ses sabbats, ses fêtes et tout. Il refusait. Pourquoi? Parce que c'est bien plus payant de travailler. Si tu travailles, tu vas faire plus d'argent. Si tu as plus d'argent, bien là, tu vas voir te payer des meilleures vacances, mais tu ne les prendras pas parce que là, il faut que tu payes les bébelles que tu t'es achetées. Vous comprenez le principe? Avez-vous, moi en tout cas, quand j'ai compris à quel point la mentalité, et puis pour ceux et celles qui me connaissent un peu moins, j'ai travaillé les 7 dernières années avant d'être pasteur dans la construction. Et j'ai rencontré plein de gars, et des femmes, là, mais des gars qui travaillaient, et puis là, on fait un bon salaire en construction, fait que là, il y avait la maison, le chalet, le bateau, le 4 roues et le nouveau char. Et puis là, ils travaillaient, puis ils faisaient de l'over pour payer la maison, le 4 roues, le chalet. Et là, finalement, qu'est-ce qui arrivait? Bien, ils partaient, puis ils utilisaient leur bébelle une fin de semaine ou 2 dans l'été, sinon c'était les 2 semaines de la construction. Et puis là, les gars, ils me disaient, beaucoup plus cru que ce que je vais vous dire, mais ils me disaient, bien, voyons, Marco, t'es bien niaiseux de pas faire plus d'over, tu pourrais te payer plus de bébelles. Et là, je disais, ben oui, mais j'ai même pas le temps de jouer avec ce que j'ai. Et puis là, on a eu plusieurs discussions là-dessus, mais voyez-vous, ne pas se reposer, et là, on va arriver dans le croustillant, ne pas se reposer, c'est de faire du travail à une idole. Ne pas se reposer, ne pas respecter les lois, ne pas respecter le repos. Vous savez, Dieu s'est reposé le 7e jour, là. Il n'avait pas besoin de se reposer. Dieu n'était pas fatigué. Dieu n'était pas dans l'embarras de dire, oh, je vais donner une bonne go, là, créer tout le monde, là. Je suis dû pour me reposer. Mais voyez-vous, Dieu nous a montré qu'il est bon pour l'homme de s'arrêter. Et l'idée du sabbat, l'idée de prendre un repos, c'est qu'au moins une fois par semaine, disciplinons-nous à donner une journée à Dieu. Le dimanche matin, dimanche après-midi, ça peut continuer. Ayons une communion, rencontrons nos frères et sœurs, prions ensemble, prenons un temps, c'est important. Pas parce que Marco le dit, parce que la Bible nous enseigne qu'on a besoin les uns des autres. Nous sommes tous des créatures relationnelles. On a tous besoin les uns des autres et on a besoin de s'arrêter. Parce que si on ne s'arrête pas, on peut courir la broue dans le toupette, pour ceux qui connaissent l'expression, toute notre vie, puis passer à côté des plus belles choses. Et c'est bon pour tout le monde. En tant que pasteur, je me rappelle souvent la phrase qui m'est dit des pasteurs qui ont sacrifié leurs enfants sur l'autel du ministère. Je ne veux pas que ça m'arrive. Des gens qui sacrifient le futur de leurs enfants pour le travail, qui sacrifient leur couple pour le travail, qui sacrifient leur couple pour la convoitise, qui sacrifient leur vie. Et un des meilleurs remèdes, c'est de s'arrêter et de remercier Dieu pour tout ce qu'on a. Prendre le temps de remercier Dieu pour toutes mes bébelles, que je peux vivre dans la vérité, puis que même quand je suis tenté de dire le mensonge, je vais être mieux si je vis les conséquences de la vérité, que je vais être mieux de ne pas voler, que je peux remercier Dieu du fait que je n'ai pas besoin de voler ma nourriture, que je peux remercier Dieu pour ma femme, pour la sexualité qu'il nous donne, que je peux remercier Dieu du fait qu'il est indulgent envers ma colère, que je peux remercier Dieu pour le fait que j'ai des parents, bon ou mauvais, et qu'il est devenu mon père par adoption, que je peux remercier Dieu du fait qu'il me demande de m'arrêter pour le louer. Avez-vous pris le temps de remercier Dieu du fait qu'il est indulgent et que vous n'avez pas besoin de jurer en son nom? Ses promesses sont certaines. Si vous lisez un petit peu avant dans l'Exode, ou un petit peu après, quand Dieu dit au peuple qu'il va s'occuper d'eux, il ne peut jurer sur un autre nom que lui-même. Donc Dieu, quand il nous promet qu'il va s'occuper de nous, il a déjà fait la promesse en son propre nom. Parce qu'on jure par quelqu'un qui est plus grand que nous. Tout le monde me suit? Dans ma tête, ça fait du sens, là, mais quand on fait un sermon, on jure sur quelque chose qui est plus grand que nous. Parce que la personne qui est plus grande que nous, si on ne tient pas notre côté de la barguine, va venir nous punir, nous chercher. Et Dieu s'est engagé lui-même, en son nom, à venir nous chercher, à prendre soin de nous, à nous adopter, à nous sauver, à nous purifier. Dieu s'est engagé en son nom. Vous n'avez pas besoin de jurer par le ciel et la terre. Vous n'avez pas besoin de prendre un sermon. Vous n'avez pas besoin de faire des choses pour gagner la faveur de Dieu. Dieu vous a sauvé. Et Dieu a juré en son propre nom qu'il allait s'occuper de vous. C'est-tu pas une grâce merveilleuse? On peut dire merci à Dieu pour tellement de choses. Vous ne vous ferez pas d'idole. Vous savez, le cœur humain est une machine à idoles. On aime se créer des idoles. On aime prendre des choses et leur donner toute la place. Comme j'ai dit au début, on prend une nouvelle passion, une nouvelle chose qui n'est pas nécessairement mauvaise, mais on la met en premier et on néglige Dieu pour le petit kick de dopamine que ça nous donne. Peu importe ce qui peut prendre la grâce de Dieu dans nos vies, nous devons l'apporter à Dieu. Vous savez, je vous ai dit qu'il y avait des choses extrêmes à faire, que ce soit combattre la convoitise, l'adultère ou les choses comme ça. Et là, il faut être extrême. Et il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas mauvaises, qui vont prendre la place de Dieu. Si ce n'est pas un péché, mais que vous passez, en plus de votre travail, en plus de votre travail, vous passez 25-30 heures par semaine à faire ça parce que c'est une passion et que là, vous n'avez plus le temps de servir le Seigneur, vous ne prenez pas le temps de prier, vous ne prenez pas le temps de lire votre Bible, vous ne vous approchez pas de Dieu, vous évitez la communion fraternelle, la liste continue. C'est peut-être une idole. Et j'aimerais vous amener cette réalité-là de vous appliquer la parole de Dieu et d'apporter tout ce qu'on fait à Dieu Et la reconnaissance, dire merci à Dieu pour ma capacité de faire ces choses-là, redonne la gloire à Dieu et va vous amener à avoir cette pensée qui est bonne, qui est la suivante, vous allez faire toute chose pour la gloire de Dieu. Et donc, votre passion n'est pas nécessairement mauvaise, mais en ayant ancré en vous de prier Dieu, de remercier Dieu avant, après, pendant, de vivre pleinement enraciné dans la reconnaissance envers Dieu, dans sa présence dans votre vie, eh bien, vous allez réaliser rapidement que ces moments-là de passion qui ne sont pas nécessairement mauvaises, mais qui vont peut-être prendre la place de Dieu et devenir une idole, vont devenir des moments où vous allez pouvoir rendre gloire à Dieu. Si vous êtes musicien, pratiquez votre instrument. Si vous êtes, peu importe, vous êtes un gars de construction, vous êtes un comptable, vous êtes ci, ça, c'est probablement pas votre passion. Bien, les musiciens puis les gars de construction peut-être, là, mais si vous êtes un comptable, je m'étonnerais que ce soit votre passion. Mais ce que vous avez comme passe-temps, comme passion, comme chose que vous aimez, rendez gloire à Dieu, puis vous allez voir que ça fait un ménage rapidement. Il y a des moments pour tout arracher, puis il y a des moments pour soumettre toute chose à la parole de Dieu. Il y a des moments pour, si ta main droite est une occasion de chute, coupe-la, entièrement d'accord. Oui, Seigneur, aide-nous à être intense et à être intentionnel. Et il y a des moments pour dire, je vais soumettre toute pensée captive à Dieu. Et je vais travailler pour arriver à me défaire de ces idoles. Paul nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Jésus nous dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Si on cherche à diaboliser nos affections et ce qu'on aime, on devient légaliste. Et si on se permet toute chose, ben, on devient pécheur. Vivre dans la reconnaissance de tout ce que Dieu nous donne va nous permettre de ne pas faire de ce qu'on aime, un idole. Et on va être capable de rayonner pleinement dans nos vies. Si vous tripez sur faire des randonnées dans le bois et que vous les faites pour la gloire de Dieu, vous allez ouvrir vos yeux, vous allez regarder les arbres, vous allez trouver les choses, vous allez rendre gloire à Dieu constamment. Et là, ça va changer votre façon de vivre, vos passions, et vous allez pouvoir rayonner. Quand les gens vont vous voir marcher dans le bois, vous allez être rayonnant, souriant, et là, vous allez avoir des occasions de témoigner. Et finalement, un seul Dieu. Ce qui est la base de tout ce qu'on a regardé ensemble, il y a un seul Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Avez-vous pris le temps de dire merci à Dieu? Du fait que vous pouvez connaître le seul vrai Dieu, du fait qu'il s'est révélé. Et là, on peut partir et énumérer toutes les fois où Dieu se révèle d'une façon extraordinaire. Mais j'aimerais vous amener ce matin vraiment vers la chose principale qui est la révélation de Jésus. Si vous prenez le temps de lire Jean au chapitre 1, Jean nous dit « Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Voici toutes choses ont été faites par elle, rien de ce qui n'a été créé n'a été fait sans elle. » Et si vous allez au verset 14, « Et voici, la parole a été faite chair. » La parole de Dieu, la puissance qui a créé toutes choses, car Dieu a tout créé par sa parole. La parole de Dieu, toute la puissance de Dieu révélée à travers l'Ancien Testament, qui a gagné des victoires, conquis la mort, conquis tout, s'est révélée en Jésus. Avez-vous pris le temps de remercier le Seigneur que vous vivez après la croix? Avez-vous pris le temps récemment de remercier le Seigneur que, dans son unité divine, il vous a donné l'Esprit Saint? Avez-vous pris le temps récemment de remercier Dieu du fait que son Fils, Jésus, lui-même, Dieu, est venu mourir sur la croix? Cette révélation-là que Dieu s'occupe de vous, s'est occupé de vos péchés et que vous n'avez pas à regarder par en avant en espérant que ça arrive, mais que vous pouvez regarder derrière vous et voir que c'est accompli. À la croix, Jésus a dit, J'ai accompli ça 3/4 et 7/8. C'était pour voir si vous dormiez. Voici, tout est accompli. Je remercie le Seigneur du fait que dans la courbe de révélation progressive, je peux voir en arrière et réaliser à quel point Dieu est bon. Sans aucun doute possible, sans aucun questionnement parfois. Des fois, on peut regarder des choses puis on a besoin d'étudier. Mais Dieu est bon. Dieu s'est occupé de nos péchés. Et vous savez, vous pouvez regarder aux non-croyants autour de vous qui se démènent et qui font tout leur possible pour arriver à une petite paix qui nous est donnée entièrement et gratuitement par le sacrifice de Christ. Et c'est là l'apogée, le plus haut point qu'on peut rendre grâce à Dieu. C'est cette réalité que nous sommes ses enfants, que nous sommes sauvés, qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus, qu'il nous aime, qu'il s'est révélé parfaitement, qu'il n'a pas regardé d'être égal à Dieu, mais qu'il s'est offert humblement. Et ce matin, on peut sortir de la boîte et remettre Christ au centre. Sortir de la boîte d'être toujours insatisfait et remettre Christ au centre de notre vie. Soyons reconnaissants pour la grâce, que Dieu ne nous donne pas ce qu'on mérite, mais il nous donne ce qu'on ne mérite pas. Attachons-nous à Jésus. On a pris le temps de passer à travers tous les commandements de Dieu, des 10 commandements, à l'envers. Et vous vous rappelez pourquoi on a fait ça? Parce que pour arriver à respecter le premier, Dieu nous permet de voir des luttes. Et c'est beaucoup plus difficile de respecter le premier que le dernier. On peut mentalement se forcer et on peut mentalement trouver des mesures psychologiques afin d'aider notre cerveau à résister aux tentations. OK? Mais la parole de Dieu nous enseigne que si on respecte le premier et on fait tout notre possible pour respecter le premier, les autres vont découler par eux-mêmes. Vous savez, il y a un missionnaire dans les années 1600 qui avait un objectif, un seul. Et je pense que l'histoire a déjà été racontée, mais je trouve ça important. Un objectif, et son objectif dans les années 1600, c'était d'être capable de passer une journée entière à être constamment dans la présence de Dieu et dans la prière. C'était son but dans la vie, son objectif chrétien de piété. Il s'est dit, j'aimerais passer toute ma vie, dans toute ma vie, j'aimerais être capable de passer une journée complète, un 24 heures, dans la présence de Dieu, en prière, à chercher sa face et à l'aimer, puis à chercher à vraiment lui ressembler, à m'éloigner du péché et tout. Et cet homme-là, il nous dit qu'il n'a jamais réussi, mais que c'était son but. Et vous savez, qu'est-ce qui était reproché à un tel homme? C'est que les gens disaient, il y a tellement la tête au ciel qui est bon à rien sur terre. Savez-vous qu'est-ce que cet homme a accompli? C'est un homme qui a implanté 400 écoles, qui a aidé un pays complet qui était illettré à apprendre à lire, à écrire et à compter. Mais son seul objectif, c'était de passer une journée complète à prier Dieu. Mais à travers sa recherche d'être constamment dans Dieu, d'être constamment en action de grâce à Dieu sur tout ce que Dieu faisait, sur son mental qui était focusé sur la parole de Dieu, sur la gloire de Dieu, sur faire le plaisir de Dieu, il est arrivé à un point où les choses de la vie courante, ça le stressait même plus, ça le dérangeait plus. Puis là, il allait de victoire en victoire par la grâce de Dieu. Des fois, dans son témoignage, il raconte qu'il y a des gens qui étaient complètement fermés. Puis que là, lui, il allait les voir, puis les gens, « Ah non, on est désolé, on n'avait pas compris. » Puis toutes les portes s'ouvraient, et Dieu est amené. Puis cet homme-là souffrait. Il y avait des luttes, il combattait, mais son objectif premier était d'être toujours capable de se tourner vers Dieu. S'attacher à Christ, c'était le point le plus important pour sa vie. s'enraciner dans la vérité. La raison pour laquelle ce matin, j'ai intitulé mon message « Sortir de la boîte » et que je vous ai fait passer à travers les 10 commandements avec moi pour que vous soyez capable de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il y a dans votre vie. Et sachez que si vous luttez avec une de ces choses qu'on a nommées, eh bien, sachez que toute chose concourt à votre bien. Luttez, combattez, cherchez la présence de Dieu, éloignez-vous du péché, jetez votre cellulaire aux poubelles. Non, c'est pas vrai. Mais faites tout votre possible pour qu'en toute chose, vous soyez en Christ. Et Dieu va s'occuper de votre cœur. Dieu va vous donner des victoires. Affaiblissons notre chair. Sortons de la boîte qui donne tellement de force à notre chair, qui aime son nombril, qui aime se satisfaire elle-même. Sortons de ça, affaiblissons-la au complet afin de nous enraciner dans la vérité, de nous attacher à Christ et d'être reconnaissants pour la grâce de Dieu. Exprimer ma reconnaissance, c'est combattre l'esprit du monde et c'est donner gloire à Dieu. J'invite les musiciens, on va prier. Seigneur notre Dieu, je veux ce matin prendre un temps pour te remercier pour ta parole. Je veux prendre un temps, Seigneur, pour me rappeler que tu es un Dieu qui est bon. Tu es un Dieu qui est compatissant. Seigneur, tu nous appelles à être reconnaissants en toutes choses. Tu nous appelles à nous rappeler que toutes choses concourent à notre bien. Tu nous appelles, Seigneur, à chercher ta personne dans ta parole, à être reconnaissants en toutes choses. Aide-nous à s'appliquer les Écritures afin de pouvoir enlever toute tâche de péché. Aide-nous, Seigneur, à lutter par les outils que tu nous as donnés. Aide-nous à toujours nous confier dans ta grâce, à nous approcher de toi. Seigneur Jésus, sois béni, sois exalté pour tout ce que tu as fait dans notre vie, du fait que tu es notre Dieu qu'on peut te connaître. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tous nos biens matériels, merci pour nos familles. Merci Seigneur Dieu pour cette église, merci pour l'adoration qu'on peut te donner. Béni soit ton saint nom. Merci de prendre soin de nous. Aide-nous à avoir les yeux reconnaissants sur tous tes bienfaits. Je te prie Seigneur pour ta gloire ce matin. Amen.